Radioscopie, Cabu, Jacques Chancel. Non, Cabu, profession dessinateur. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les dessinateurs enlevaient leur prénom.
Parce que c'est ça, c'est... Enfin, c'est... Je sais pas, il y a peut-être une mode aussi. Il y a 20 ans, les dessinateurs recherchaient une contraction de leur nom ou bien des... Enfin, un truc marrant, quoi. Moi, j'ai enlevé le T simplement à mon nom, parce que j'avais déjà un nom rigolo, quoi.
Comme les grands peintres?
Oui, peut-être, oui.
Quel est votre prénom, c'est Jean?
Jean, oui.
Et ça n'allait pas. Jean Cabu, ça, si, ça ne faisait pas vrai.
Si, mais j'ai commencé à dessiner dans l'Union de Reims et je signais KBU, avec un K. Ouais. Parce que, bon, ça faisait... J'étais potache, quoi.
Vous êtes né à Chalon-sur-Marne et c'est un berceau pour les dessinateurs. Il y avait déjà des ancêtres dans cette ville.
Il y a Villette qui est né à Chalon-sur-Marne, oui. Peintre Montmartre III, dessinateur de Pierrot et Colombine. Il y a Pierre Dac aussi qui est né à Chalon et il y a le général Massu.
Ah, c'est pas mal tout ça.
Oui.
Ça fait un bel ensemble. Mais on est guidé par une vocation, par un amour de quelque chose, ou bien simplement un instituteur, un jour un professeur dit « Ah, c'est pas mal ce que vous faites, vous devriez continuer dans le dessin. »
Je crois que moi j'ai été guidé par Dubout, je crois. C'est Dubout qui m'a donné envie de dessiner, dès l'âge de 12 ans. Il est mort maintenant depuis 3 ans, je crois. Mais je crois qu'il a aussi contribué à la vocation de nombreux dessinateurs.
C'était un vrai dessinateur pour vous?
Ah, c'est un très très grand dessinateur. Vous verrez que dans quelques années, on reconnaîtra que c'était un grand artiste. Parce que quand on voit ces illustrations de livres, vous connaissez peut-être
les... Oui, très bien.
Mais c'était pas connu du grand public. On voyait que les foules, que les grosses mémères et les petits bonshommes. Mais il a illustré tous les grands livres, tous les grands auteurs... Il a fait des lithographies magnifiques, quoi.
Et déjà, il accentuait tous les ridicules, ce que vous faites un peu, parce que je veux dire que vous n'êtes pas tendre, je dirais même que vous êtes sévère. Vous êtes cruel dans la vie courante?
Je crois pas, mais je regarde, et puis je crois qu'on... Notre rôle, c'est un peu de compenser peut-être que ce que le... L'esprit critique qui disparaît des médias et des institutions... L'Assemblée nationale, est-ce que l'Assemblée nationale joue encore un rôle? Peut-être qu'on compense toutes ces défaillances.
Peut-être même êtes-vous plus sévère que les journalistes de la presse écrite. Je regarde les dessinateurs depuis quelque temps et je crois que c'est par le dessin que beaucoup de choses passent, que beaucoup de pamphlets sont écrits, comme quoi le graphisme peut retrouver le mot.
Oui, c'est vrai. Charlie Hebdo, je crois que nous sommes avant tout des journalistes.
Vous vous reconnaissez d'ailleurs comme journaliste?
Oui, nous avons une carte de presse et quand on me demande ce que je fais, je dis je suis journaliste.
Mais la légende a à ce moment-là de l'importance?
Bien sûr, oui.
Ce que l'on écrit à côté a plus de l'importance que le graphisme?
C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans le dessin maintenant, on s'exprime surtout par la bande dessinée, alors qu'avant, on faisait un seul dessin. Moi, je suis quand même... toujours attaché à ce dessin, un dessin très simple, avec très peu de texte. J'aime toujours ça, mais il semble que il y a une évolution vers, je vous dis, le texte mêlé au dessin.
Mais il y a une difficulté à s'installer dans le dessin. Parce qu'ils sont rares, les dessinateurs, quand même, qui font leur trou, qui imposent leur signature.
Oui, mais je ne crois pas que ce soit une profession très encombrée. Peut-être qu'il faudrait demander à un jeune dessinateur, mais je trouve que, d'abord, maintenant, les jeunes dessinateurs font leur journal, créent leur journal, carrément, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans. Et Charlie Hebdo a été créé par une bande de dessinateurs, par surtout trois personnes, Cavana, Bernier et Fred, qui ont commencé par créer Harakiri, parce que, justement, il n'y avait pas de journaux pour s'exprimer à part Ici Paris. Moi, j'ai rencontré Fred à Ici Paris.
Vous avez travaillé ici Paris?
Bien sûr.
Vous travaillez encore?
Non.
Pourquoi? Ça n'est plus du tout votre plateforme.
Oui, c'est un humour complètement déconnecté, comme on dirait, de la vie. Alors que nous, on aime bien faire rire avec des choses réelles, en s'appuyant sur l'actualité, sur ce qui se passe dans le monde.
Vous m'avez dit, Cabu, que vous aviez de la tendresse pour Dubout. Vous avez la même tendresse pour Jacques Faisan?
Jacques Faisan, je reconnais que c'est pas facile de faire des dessins pour, vous voyez. Oui. Parce que...
Qu'est-ce que vous avez des... Qu'est-ce que vous appelez des dessins pour?
Bah, des dessins pour les choses qui sont en place, pour la majorité.
Oui. C'est plus facile de faire des dessins contre.
Peut-être, oui.
Oui. Mais par exemple, un dessin comme celui d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, on voyait le comte de Paris et on voyait Georges Marchais. Et comme c'était sur Antenne 2, Georges Marchais était à 20h30 et le comte de Paris à 21h30. Et l'un se présentait et disait Henri, comte de Paris, et l'autre disait Georges, comte de Moscou. Mais comte, C-O-N-T-E-S. Alors ça vous amuse ça? Est-ce que c'est le bon dessin?
J'ai pas vu le graphisme, mais bon, je vous dis, il s'exprime, et ça doit pas être facile tous les jours de faire un dessin, si vous voulez, qui ne tape que d'un seul côté, parce que nous, on peut pas nous reprocher quand même de taper que d'un seul côté. Par exemple, on tape aussi bien sur Marchais en ce moment qu'on a tapé sur Pinochet assez longtemps, vous voyez. Tandis que dans le Figaro, je ne crois pas que j'ai jamais vu de dessin tellement contre Pinochet. Quoi.
Mais enfin, un journaliste, je veux dire un dessinateur, ne peut pas appartenir à un parti politique.
Théoriquement.
Vous appartenez, vous?
Non, pas du tout. J'ai des sympathies pour les écologistes, et surtout pour les non-violents. Je pense que... le seul mouvement qui vaille la peine, si vous voulez... Essayer, encore ce qu'on n'a pas essayé, ce serait la non-violence. Essayer de
ne plus se battre.
De ne plus se battre. De régler tous les conflits autrement que par les armes. De décréter qu'on va régler les conflits, mais pas en prenant les armes.
Vous ne pensez pas que c'est de l'utopie? Parce que vraiment, plus on va, et plus ça bagarre partout.
C'est ça, mais ça ne sera jamais le moment de désarmer. Si, quand on parle de désarmement, je sais bien, les gens me disent « mais tu ne vas pas désarmer en ce moment », mais je crois que l'utopie, c'est l'utopie ou la mort, comme dit Dumont. Si on ne désarme pas, un jour, on va disparaître. Quoi.
Alors, mais l'utopie est une règle de vie, de toute manière.
Oui, il n'y a que ça d'intéressant, si vous voulez. Moi, j'aime les gens qui ont envie de changer le monde, encore.
Alors, tout à l'heure, vous disiez que vos débuts, vous les aviez faits à l'Union, à Reims. Mais je me suis aperçu que vous aviez également travaillé au Figaro.
Oui, j'ai fait des dessins.
Ici, Paris, le Figaro.
J'ai fait des dessins de spectacles dans le Figaro. J'ai dessiné dans Candide, j'ai tout fait.
Il fallait le faire. Vous ne regrettez pas, parce que...
Non, 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 hein, parce que j'ai fait... Même au Figaro, j'ai couvert, comme on dit, le procès Ben Barka. C'était parce que j'avais...
Les croquis d'audience.
Les croquis d'audience, et ça m'intéressait. J'ai suivi tout le procès Ben Barka.
Je veux dire que ça ne se fait presque plus.
Non.
Et c'est dommage, car c'était un art particulier, c'est-à-dire le trait, croquer un personnage à la barre.
Voilà, et c'était la revanche du dessinateur, parce que vous savez que les photos ne sont pas admises, enfin les photographes ne sont pas admis dans les prétoires. Donc,
le dessinateur était le roi, là.
Voilà, et ça se perd. Vous savez, il n'y a plus beaucoup de dessins dans les journaux, hein. Et puis, il y a une habitude, quand il y a trop de place, on commence par supprimer le dessin. Et puis, il n'y a plus beaucoup de dessins. Petit à petit, il n'y a plus de dessins dans les journaux.
Oui, mais tout est contradictoire, parce qu'il y a moins de dessins dans les journaux, mais dans le même temps, c'est le triomphe de la bande dessinée. Il y a des albums partout.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est parce que peut-être il y a trop d'albums qu'il n'y a plus de dessins. C'est-à-dire que vous avez pris toutes les portes qui se présentaient à vous, vous y êtes entré. Et vous êtes devenus des industriels du dessin.
Attendez, moi je crois que aussi parce que vous parlez de la presse quotidienne. On parlait de la presse quotidienne.
De toute la presse.
Non, c'est parce que les journaux, par exemple, les journaux quotidiens n'osent plus publier des dessins qui disent des choses importantes, moi je crois aussi. Donc il s'est créé des journaux, comme nous on a créé des journaux, pour s'exprimer.
Enfin, j'ai l'impression, Cabu, qu'il s'agit d'abord d'inventer des personnages, d'inventer des situations, et je me demande si vous étiez fait pour le massacre. Parce que lorsqu'on vous regarde, vous qui êtes si sévère, vous qui êtes cruel, qui tapez dur, vous êtes un tendre.
Oui, mais...
Faut se méfier, peut-être.
Oui, non, non. J'aime pas... Si vous savez, j'aime pas grand-chose, quand même. Je me dis que le monde est fait pour des gens qui aiment le rock, qui aiment la bagnole, qui aiment les films de guerre, enfin les films de gangsters. Et moi, j'aime rien de tout ça. Et il faut que je cherche désespérément des petites choses comme ça. C'est pour ça...
Enfin, il ne faut pas tenir compte de ce que vous n'aimez pas, on a compris. Mais qu'est-ce que vous aimez? L'homme, d'abord.
Je vous dis, on peut pas vivre tout seul. Mais j'aimerais une harmonie un peu plus grande, quoi, entre les choses, entre les... Et puis surtout que la bêtise ne mène pas le monde. Parce que... Ou la manipulation, regardez Carter en ce moment. Il va peut-être être réélu grâce à la menace de guerre. Et on ne parle que de, pour résoudre la crise, de développer les productions d'armement.
La guerre lui aura été bénéfique.
Eh oui. Mais c'est pas normal, c'est pas... Vous vous rendez compte d'une responsabilité?
Je crois que c'est le triomphe de la politique et de l'événement.
Et du cynisme. Mais alors, moi je voudrais que les gens...
On a l'impression que ça vous étonne.
Ah oui, ça m'étonnera toujours, ça. Ça ne vous étonne pas?
Non, parce qu'on sait que les choses sont comme ça, vraiment. Et il faut être utopiste pour les changer, et assez lucide pour comprendre.
Oui, mais on devrait se servir de ces expériences à chaque fois. Mais les gens nous oublient, oublient ce qui s'est passé il y a 3-4 ans. Je voudrais que les gens refusent, par exemple, de travailler dans les usines d'armement. Je ne voudrais pas qu'ils disent « Ah ben, on n'y peut rien, c'est pas nous qui faisons la politique, c'est pas nous qui avons des programmes d'armement. » Et les syndicats disent ça, disent « Vous avez la CGT et la CFDT à l'intérieur des usines d'armement. » Et il y a des gens, à l'heure à laquelle nous parlons, qui sont en train de visser des obus. Et à la fin de la journée, ils auront fabriqué de quoi détruire d'autres ouvriers. Je ne sais pas, c'est monstrueux. Moi, je crois que je ne pourrais pas faire ça.
Là, justement, j'ai des petits mots écrits par votre ami Wolinski, qui parle très bien de vous. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes tout à fait d'accord. Il dit « Cabu est un passéiste ».
Oui, oui, c'est vrai, je suis passéiste parce que hier, ça sera toujours mieux que demain. Alors, j'accepte cette étiquette.
Visiblement, il se bat avec l'énergie du désespoir contre un futur dont il n'attend rien de bon. Tout le pessimisme.
Oui, c'est vrai.
Vous attendez même la guerre, comme vous dites. Non, mais on ne peut attendre que le pire.
Je me suiciderais, donc non, j'espère quand même. Enfin, j'espère, mais alors, c'est là que je voulais vous parler des jeunes, là, des lycéens. Oui. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, ils roupillent complètement. Je crois que si on attend que cette génération change le monde, je crois qu'on peut attendre longtemps.
Et vous parlez des lycéens, des lycéens, pas des étudiants.
Non, des lycéens.
Alors, que devraient-ils faire?
Eh bien, ils ne devraient pas être aussi bêtes que nous, c'est-à-dire se laisser faire comme on s'est laissé faire. Par exemple, pour les centrales nucléaires, il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore des centrales qui ne sont pas construites. Regardez la centrale du Pèlerin près de Nantes. Les paysans ont décidé de ne pas vendre leurs terres à l'EDF et la centrale n'est toujours pas construite. Malheureusement, la semaine dernière, il y a eu une déclaration du Parti communiste disant que la centrale du Pèlerin était souhaitable. Alors bon, ils sont même trahis par le PC. Mais... Alors ils disent, vous n'avez pas réussi à changer le monde, pourquoi voulez-vous qu'on se casse la tête à essayer de le changer? Mais c'était vrai toutes les époques. Si, en 1788, vous savez, c'était pas sûr.
Puis ils se disent aussi, peut-être, regardons ce qui se passe dans le monde, puisque vraiment on crie beaucoup, mais puisqu'on ne fait rien lorsque des troupes envahissent un pays, pourquoi se révolter à l'intérieur?
Oui, mais il y a toujours quelque chose à faire. Par exemple, ce qu'on n'a jamais essayé en France, c'est le boycott économique. Moi, je crois qu'il n'y aurait que ça pour changer le monde, si vous voulez. C'est de ne pas consommer, de moins consommer. Mais ça, c'est pas une idéologie complaisante. Alors, je me demande si ça peut marcher. Moins acheter de voitures, moins acheter de gadgets, moins... Enfin, on sait bien ce qu'il faudrait faire. C'est ça qui est désespérant, c'est que tout le monde est d'accord, finalement, quand on parle comme ça, entre nous. Là, on sait ce qu'il faudrait faire, et personne ne le fait.
Vous avez une voiture?
Non.
Vous avez une maison?
J'ai une voiture de collection, attendez. J'ai une
deux voitures de collection.
Deux voitures de collection, mais ouais. Une qui ne marche plus en ce moment. Une trèfle de 1925, mais je considère ça comme un jouet.
Ah ben bien sûr.
Bon, c'était
marrant. Bien. C'est en plus de presque votre vertu, c'est-à-dire conserver ce qui est hier.
Oui, oui. Mais je vous assure que... Alors, c'est là que vous voyez qu'en 50 ans, la voiture n'a pas fait tellement de progrès. C'est toujours le même moteur à 4 temps. C'est dérisoire, les progrès. Parce qu'il faut vendre du pétrole. Bon.
Vous êtes sûr d'avoir raison, Cabu ?
Non, non.
Ah, voilà ce qu'il dit, il est sûr d'avoir raison.
Non, 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 non.
Vous doutez encore, alors ?
Ah oui, je crois même qu'il il faut toujours douter. Enfin, c'est la seule foi qu'on puisse avoir, la foi en le doute.
Enfin, c'est bien de le dire comme vous le dites, c'est bien de l'écrire comme vous le faites, c'est bien de le dessiner comme vous le dessinez, mais comme vous le disent vos copains, le combat est quand même perdu d'avance. Parce que il y aura toujours la force, il y aura toujours les fous, et il y aura toujours le pouvoir. Même là où la révolution s'installe, il y a une nouvelle forme d'empire.
C'est vrai.
Prend le pouvoir.
C'est vrai. Alors, il y a des jours où on se dit...
Mais il faut quand même y croire, parce qu'autrement...
Voilà. Mais oui, il y a des jours où on se dit, on n'arrivera pas à changer le monde, il y a trop d'imbéciles. Puis, il y a d'autres jours où on se dit, ah, c'est pas de leur faute. Et puis, à ce moment-là, moi, je me passe un disque de Cab Calloé parce que c'est trop triste.
Alors, revenons à l'écriture. C'est le dessin pour vous. Et j'ai bien aimé cette phrase de Wolinski, parce qu'il y a des mots, parfois, on peut les trouver durs, orduriers, et ils sont vraiment d'une vertu totale. Le rôle d'un humoriste, c'est de foutre la merde dans les esprits. Alors,
oui, oui. Puis Cavana, il dit quelquefois aussi, l'humour, c'est un coup de poing dans la gueule. Non, c'est-à-dire qu'on cherche, c'est vrai,
il faut frapper fort,
à secouer les gens.
Plus fort que l'on ne pense. Même on se dit, tiens bon, peut-être que j'y vais un peu trop fort, mais il faut quand même.
Et oui, mais aussi, ça fait du bien de se, on se venge un peu. Regardez l'histoire de Dalida, l'affiche de Dalida.
Oui.
Vous êtes au courant ?
Oui, le chapeau.
Oui.
Le chapeau que vous avez enlevé.
Voilà, mais elle l'a bien cherché quand même, Dalida. Je vous assure que moi, je prends le métro et c'était une obsession dans les couloirs du métro. On voyait que cette affiche. Bon, c'était très, très équivoque déjà.
C'est bizarre cette obsession chez vous quand même.
De.
je ne voyais que ça, du chapeau.
Non, mais on avait marre et je crois qu'on a fait plaisir à des tas de gens. D'aller jusqu'au bout de l'idée de ou ce qu'elle ne voulait pas montrer, elle.
Parce qu'au départ, vous pensez que c'était cela qui était en cause. C'est-à-dire qu'elle avait voulu donner cette impression.
Oui, elle a voulu se faire une publicité hypocrite. Mmh. Hein? Et Bernier, qui a enlevé le chapeau, a vengé...
A vengé Dalida.
Des tas de gens comme moi qui voyaient cette affiche.
Mais vous aimez bien Dalida quand même, non? C'est pas votre genre.
Oui, qu'est-ce qu'elle dit ? Je sais pas ce qu'elle dit. Elle dit rien. Elle aussi, elle vend de la musique, quoi, mais c'est pas intéressant, quoi.
Vous aimez quand même quelques chanteurs dans...
Ah ben, il y a Maxime Le Forestier, bien sûr.
On l'écoutera tout à l'heure, d'ailleurs.
Ah oui. Parce que c'est un type qui... J'aime bien son intégrité. Enfin bon, et puis le musicien... D'ailleurs, il va faire un concert avec Graham Allwright, le 30 et 31, vous êtes au courant ?
Très au courant.
Bon.
Mais vous trouvez cousin, Maxime Le Forestier, et vous ? C'est-à-dire que par la musique, il peut vous apporter quelque chose, et vous pouvez lui apporter à votre tour quelque chose par le dessin ?
Peut-être, c'est curieux, oui. Je crois que c'est un type... S'il dessinait, je sens qu'il ferait des dessins qui me plairaient, quoi. Je crois que c'est assez voisin, d'ailleurs, dessin, la musique.
Mais lorsque Jean-Luc Godard dit que vous êtes le meilleur journaliste de France...
Ça, je crois que c'était un gag, mais enfin, bon...
Je ne sais pas si c'est un gag, parce que peut-être veut-il dire par là que vous avez poussé le dessin, et vos amis dessinateurs ont poussé le trait jusqu'à leur maximum.
Des gens comme Rezer, surtout. Et lui, il a vraiment inventé une nouvelle écriture, quoi. C'est un dessin même qui bouge, quoi. Je vous dis, c'est une écriture, quoi.
Alors, je regarde les cibles favorites, Cabu. Alors, il y a l'armée, il y a les promoteurs, il y a les gens de la justice, il y a l'énergie nucléaire, vous en avez parlé, il y a le racisme, il y a l'enseignement aussi. Pourquoi l'enseignement ?
Ça, c'est peut-être des mauvais souvenirs.
Mauvais potache ?
Oh oui, oui. Oui, c'est curieux parce que ça pourrait être chouette, quoi, l'enseignement, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi tout le monde en a un mauvais souvenir, presque comme de l'armée. Son passage au lycée, je sais pas pourquoi.
Mais pourtant, l'armée, vous l'avez très bien accompagnée. Vous avez été en Algérie pendant 2 ans.
Eh oui.
Vous avez été un bon militaire.
Pensez-vous, non. Non, je me suis planqué au maximum, mais malgré tout, j'ai fait 27 mois là-bas. Mais parce que je suis parti, j'étais complètement ignare. Mais quand je suis revenu, j'étais vraiment anti-militariste, parce que j'avais compris que c'était un État dans l'État. On ne pouvait rien là, dans l'armée. Je vous assure que... D'ailleurs, quand vous voyez la justice militaire, c'est les derniers tribunaux d'exception. Si la gauche était passée, dans le programme commun, il était prévu la disparition des tribunaux d'exception. C'était peut-être la seule mesure concrète qui aurait été prise, parce que je vous accorde que le programme était à peu près le même à droite qu'à gauche. C'est-à-dire...
Vous y avez cru au programme commun ?
Non, mais j'ai cru comme tout le monde que la gauche allait prendre le pouvoir. Alors, on se frottait les mains pour voir quelles conneries ils allaient faire. Mais c'est sûr, on savait que... Enfin, rien qu'en voyant le programme, nucléaire, c'était équivalent. Hein, l'armée, pareil, sauf, je vous dis, la disparition des tribunaux militaires.
Alors, si la gauche avait pris le pouvoir, qu'est-ce qu'elle aurait pris ensuite ? Vous l'auriez attaqué comme vous attaquez la majorité d'aujourd'hui ?
Certainement.
Et alors, elle aurait été la majorité à ce moment-là ?
Oui, certainement, parce que d'après son programme, elle était déjà plus la gauche. La gauche, vous allez me dire, il n'y a plus de gauche, plus de droite. Enfin, il y a des gens qui essaient de réfléchir, la gauche, pour moi, c'est des gens qui essayent de ne pas se laisser aller à leur passion, à des symboles cucu, des gens qui essayent de raisonner scientifiquement, et des gens qui veulent changer quand même le monde.
Alors, je sais bien que vous n'aimez pas l'armée, vous l'avez prouvé, vous le dites dans tous vos albums, mais admettons que notre pays soit envahi. Qui va le défendre ? C'est l'armée.
Oui, mais...
Non, je pose la question. Qui peut le défendre ? Si vous êtes, vous, Cabu, cambriolé chez vous, si vous êtes massacré, si vous êtes bastonné, vous allez chercher les flics ? Non, mais dites-moi.
Je sais pas, oui.
Oui. Alors, vous êtes en contradiction avec vous-même.
C'est toujours
le problème, je crois. Il y a une nécessité, hélas, de la force.
Attendez. Non, mais c'est toujours... On me dit... Et devant Hitler, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, les objecteurs ? Et on peut répondre, s'il y avait eu plus d'objecteurs en Allemagne, il n'y aurait pas eu de guerre. Je crois que c'est pour ça qu'il faut raisonner maintenant en parlant de mondialisation. On ne peut plus raisonner en parlant de patrie, parce que ça ne veut plus rien dire. C'est quoi, c'est la patrie des multinationales ? Et je pense qu'il faut envisager le monde globalement. Alors, évidemment, la force... Si c'est une réaction immédiate, évidemment, on a une réaction de défense. La force peut être justifiée, mais on ne peut pas ériger la force en système de gouvernement même. Et en ce moment, on voit des États entiers, des peuples entiers qui sont manipulés simplement pour faire réélire un président. On va avancer une menace de guerre, c'est quand même monstrueux.
Alors revenons au dessin lui-même. Êtes-vous capable d'être malhonnête pour affirmer la qualité d'un dessin ? C'est-à-dire,
ah non.
Forcément aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a la drôlerie qui doit entrer en ligne de compte. J'ai par exemple dans votre livre sur Abat toutes les armées, oui. Toutes les armées, quelles qu'elles soient,
oui. Et pourtant,
de toutes les couleurs.
Mais il n'y a que l'armée française qui m'a fait un procès, remarquez.
Oui, ben vous êtes français. Bon, alors il y a cette pleine page, overdose tragique, 500 millions de morts, et on voit un militaire avec la chopine qui appuie sur un bouton, il est indiqué force de frappe.
Oui, ben j'ai voulu lui montrer le pouvoir exorbitant, oui, que les militaires détiennent.
Et civil aussi, un peu, vous savez.
Oh non. Il n'y a que le président de la République au-dessus des militaires, mais une fois qu'il sera dans l'abri anti-atomique de Taverny, il sera aux mains des militaires. Bon, mais je veux dire, en parlant d'abri anti-atomique, si l'armée était là, soi-disant, pour défendre les populations, elle devrait commencer par construire des abris anti-atomiques à tout le monde, alors qu'il n'y a pas d'abri anti-atomique en France, à part sous l'Élysée, et à part un abri que j'ai découvert grâce à un lecteur qui m'a emmené par les égouts sous le ministère de l'équipement, 58 boulevard Lefebvre à Paris. Il y a un abri de 200 places, au moins.
Ah bon ? Où ça ? Quel côté ?
58 boulevard Lefebvre, sous le ministère de l'équipement. Exactement, sous un laboratoire...
Prenez l'adresse, il va y avoir du monde.
Et écoutez, j'ai fait un reportage il y a 2 mois de ça, je n'ai eu aucun démenti. Ça a été repris par Le Point, d'ailleurs, ils n'ont même pas signalé que c'était Charlie Hebdo qui l'avait découvert, un lecteur de Charlie Hebdo, mais ça n'a pas été démenti. Et un lecteur nous a écrit après pour dire qu'il y avait... qu'il y en avait un également sous le ministère de l'aviation, de l'air. Mais vous vous êtes jamais demandé qu'est-ce qu'on allait faire. Peut-être que vous avez un abri sous la maison de la radio.
Je suis en train de m'interroger. On va essayer de faire le guide des abris à Paris.
Ah oui, il faut le faire, ça.
Alors, il y a l'autre dessin, 14 juillet, fête des tueurs. Alors, les révolutionnaires étaient des tueurs.
Non, mais le dessin montre les paras qui défilent...
Oui, mais enfin, le 14 juillet, c'est pas le 14 juillet d'aujourd'hui ou de demain.
Alors justement,
c'est le vrai 14
pourquoi
juillet.
Pourquoi c'est un défilé de couteaux et de haches? Enfin, Cavana, il dit toujours, les animaux, au moins, ils ne font pas de défilé avec des haches et des couperets. Les cochons ne défilent pas. Bon. Mais ce dessin, c'est pour montrer que l'armée récupère toutes les vertus civiques et s'érige en gardien de toutes les vertus, l'honneur, le courage. Je ne vois pas pourquoi on peut être un homme sans avoir fait son service militaire, non?
Alors, Cabu, on a parlé du Grand Duduche. C'est vous, c'est le potache, c'est l'homme qui se révolte, c'est le jeune qui est mal dans sa peau. Il y a tous ces albums, Abat toutes les armées, il y a les aventures de Madame Pompidou. Je veux dire que là, vous faites preuve de vos qualités de caricaturiste. Et j'ai cité quelques exemples, je les ai donnés parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la bande dessinée est un exemple comme véhicule de transmission. Et c'est vrai aussi que vous portez un regard dur, comme je le disais tout à l'heure, sévère, sans complaisance, sur les sociétés. Et vous ne voulez plus, je crois, de ce monde impitoyable. Vous ne voulez plus de cette violence, vous ne voulez plus de cette hypocrisie. Et en fait, lorsque vous êtes si dur, on peut se dire, oh, Cabu, enfin, il abuse. Alors qu'avec des mots, vous le diriez plus simplement et vous passeriez pour un humaniste.
C'est vrai, remarquez, on me traite souvent de curé, alors. Vous ne m'avez pas encore demandé Dieu dans tout cela. Mais n'oubliez pas avant la fin de l'heure.
Vous savez que je ne parle jamais de Dieu, moi. Ce sont les autres qui m'en parlent. La preuve, oui. Nouvelle preuve. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais parlé ni de Dieu ni de la mort. Mais tous m'en parlent.
Ah oui.
Pourquoi vous m'en avez parlé? Je n'ai pas dit un mot.
Mais si, parce que j'ai remarqué que vous... C'est toujours à la fin.
Non, mais jamais.
Si vous aimez bien quand même les gens qui ont rencontré Dieu et tout ça, qui ont une expérience.
J'en connais peu d'abord. Hein. Ah.
Non, mais qui...
Non, vous êtes piégé, là.
Ah, oh, ben, c'est sûr, oh là là, je suis plein de contradictions. C'est facile de piéger, vous savez. Non, mais vous me demandiez... Mais vous savez, il n'y a pas... Il y a toutes sortes de bandes dessinées. Regardez, oui. Angoulême, toutes les tendances vont être représentées. Samedi, dimanche, là, il y a le festival de la bande dessinée. Vous aurez tous les scénaristes, aussi bien de science-fiction que d'humour, tous les dessinateurs...
Trois jours de bande dessinée, et je dois dire que ce festival attire beaucoup, beaucoup de monde. Je vous précise d'ailleurs, Cabu, que José Arthur présente son émission en direct d'Angoulême, hein, ce soir.
Très bien.
Allez lui faire une petite visite. Non, mais la bande dessinée a pris maintenant son vol, en faisant l'envol.
Oui, je crois que le public n'a pas tellement augmenté. C'est un public de fanas.
Oui.
Et, par exemple, je reviens au lycéen de maintenant, c'est pas un engouement... C'est plutôt les 30-40 ans, hein, les lecteurs de bande dessinée.
Vous écrivez pour qui? Vous vous imposez un public? Vous essayez de faire des complaisances de ce côté-là? Je vais les séduire.
Non, je crois pas.
Non?
Non, on a l'avantage, justement, à Charlie Hebdo, d'être responsable de ses pages, si vous voulez. Même Cavana, qui est rédacteur en chef, ne sait pas ce qu'il va y avoir dans son prochain numéro. Bien sûr, s'il n'est pas d'accord, il le dira. Mais après, vous voyez, on est libre. Donc... Non, on dessine pour soi, finalement.
Mais Cabu, vous donnez l'impression d'être beaucoup plus libre à Charlie Hebdo, bon, qui a trouvé sa place, qui vraiment s'est installé comme journal et qui est reconnu par tous, même par ceux qui ne l'aiment pas. Mais vous vous reconnaissez plus libre là que chez Pilote, à Pilote? Vous n'êtes plus...
Si, mais je vais y retourner.
Ah?
Oui.
C'est pas vrai. Pourtant, c'est quand même... C'est le tremplin de vos débuts.
Non, je vais refaire Duduche dans Pilote. Parce qu'on me l'a proposé. Il y a Vidal qui était un type que j'aime bien. Alors, j'ai dit oui.
Mais c'est
Vidal qui a succédé à Goscinny.
C'est une trahison
Non, non, non. Non, je vais faire...
C'est un retour aux sources.
Si vous voulez, mais je pense que... Duduche a du mal Il est pas très bien dans Charlie Hebdo, parce que c'est un personnage un peu... je sais pas comment vous dire, je sais pas pourquoi, mais je le sens mieux.
Il a une autre clientèle avec Pilote. Peut-être il sera mieux reçu.
Peut-être par des plus jeunes, oui.
Donc vous reconnaissez que Pilote a une clientèle plus jeune, alors que Charlie Hebdo, comme vous disiez tout à l'heure, intéresse surtout les 35, oui. 40, 45, 50, non?
Oui.
Et au-dessus. Lorsqu'on a passé 60 ans, on a de la tendresse pour la bande dessinée. C'est un art pour qui? Pour quel âge? Pour quelle génération?
Je vous dis. Je ne veux pas vous répondre pour tous les âges. Je crois qu'il faut avoir quelques références quand même culturelles pour apprécier la bande dessinée. Donc, je vous dis 30-40 ans, c'est le bon âge.
Alors moi, j'ai regardé un peu tous vos albums. Je dois dire que la caricature est vraie, que le trait est vif. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'y revenez pas. Vous attaquez de tous les côtés le conformisme, le militarisme, le militantisme, le racisme. Mais quand même, une question que l'on pourrait se poser. Vous connaissez des pays où il n'y a pas d'armée?
Oui, il y a le Costa Rica.
Ah bon?
Oui. Et l'Islande. Mais l'Islande a quand même une base de l'OTAN sur son territoire. Mais au Costa Rica, je crois qu'il y a une forte gendarmerie, par contre.
Ça n'est pas la même chose. C'est vrai que les gendarmes, les aimaient bien. Ouais. On les aime bien en France, les gendarmes.
Enfin, on peut discuter, je crois,
davantage. Vous avez des copains gendarmes?
Non. Mais vous savez, j'arrive jamais à discuter avec un militaire. C'est ça qui est terrible.
Parce que vous ne voulez pas.
Écoutez, une fois dans...
C'est de l'intolérance.
Non, j'essayais. Ah. Écoutez, j'ai voyagé une fois dans un compartiment, je revenais de Brest, à un procès que l'armée m'avait fait, avec la femme d'un sous-marinier atomique. J'étais content, je lui ai dit, écoutez, je lui ai donné mon adresse, tout, je lui ai dit, je voudrais parler avec votre mari, je ne l'agresserai pas, je voudrais simplement parler avec quelqu'un qui passe sa vie, soi-disant, pour nous protéger. Bon. J'ai rien reçu, j'ai lancé un appel dans le journal, je sais pas, il n'y a pas de dialogue.
Moi, s'il a lu vos albums, il a eu peur, il s'est dit, ce petit monstre...
Il a peur de moi avec mon crayon.
Ah, mais le crayon peut faire peur.
Oui,
mais vous le savez bien, d'ailleurs, que les hommes politiques, parfois, craignent le dessin, ou parfois aussi, l'appellent.
Oui,
on ne vous a jamais demandé, un homme politique ne nous a pas dit « croquez-moi un peu, faites-moi un peu de publicité ».
Non, on ne les voit pas, les hommes politiques, nous. Mais c'est vrai que... Il n'y a plus que l'armée qui fait des procès, ou bien Dalida. Hein? Et d'ailleurs, on a perdu tous nos procès, parce que, là, avec l'armée, on ne gagne jamais un procès. On est toujours inculpé d'injures envers l'armée, mais jamais de diffamation, parce que si on est inculpé de diffamation, il faudrait apporter la preuve. Il faudrait que l'armée apporte la preuve qu'il y a diffamation. Elle ne veut pas s'engager sur ce terrain-là. Elle décrète qu'il y a injure, et le ministère public décide aussi qu'il y a injure, évidemment, parce que le ministère de la Justice emboîte le pas au ministère des Armées. Alors, on est toujours condamné.
Mais alors, Cabu, pour quel combat, contre qui êtes-vous capable de prendre les armes? Vous pourriez prendre des armes un jour?
Jamais.
Hein. Non. Quoi qu'il arrive.
Écoutez, si vous prenez une arme, si vous êtes agressé, tout à l'heure, vous me demandez.
Oui, voilà. Dans la rue, par exemple.
Sans arme, vous risquez au moins d'avoir la vie sauve. Mmh. Parce que si vous avez une arme, vous faites encore plus peur à celui qui vous agresse.
il y aura au moins un maladroit.
Voilà. Vous croyez pas?
Je crois, oui.
Et ça résout jamais rien. C'est simplement un coup de sang qui fait plaisir, qui c'est un défouloir. Une arme, c'est tout.
Vous pourriez écrire des chansons?
Ah non, je crois que c'est très très dur.
Pourtant, lorsque vous faites un dessin, vous ajoutez à ce dessin une légende. Et c'est déjà un commencement de chanson.
Oui, mais il faut un rythme quand même dans un texte de chanson. Vous croyez pas? Non, c'est différent. Enfin, GB a fait des chansons, a fait une chanson pour Yves Montand qui est très très belle. Cavana a fait une chanson pour Marcel Amont.
Et alors vous?
Moi, je peux pas faire une chanson pour Charles Trenet quand même. Je n'en voudrais pas.
Il y a une nécessité d'inventer chaque fois des personnages. Bon, le grand Duluche, lui, est installé. Il court sa vie. Mais il y a également Catherine, cette fille de bonne famille, catholique, et qui, un jour, prend toute sa liberté et découvre les émois sexuels. Alors, pourquoi serait-elle catholique? Pourquoi serait-elle de bonne famille? Et pourquoi, à la fin, ses parents seraient-ils inquiets? Vous savez que les bonnes mœurs sont également très bien regardées du côté des simples.
Oui, c'est vrai, mais ça c'est un
personnage... Non, ça, vous avez choisi.
Négatif,
vous avez choisi. Oui, c'est votre côté négatif. C'est-à-dire, vous pensez que... D'abord, vous êtes né dans quelle famille, vous?
une famille de petits bourgeois. Mon père voilà. est professeur.
Le grand du duché bourgeois.
Mon père était professeur à l'école des arts et métiers de Chalon-sur-Marne. Mais parce que vous reliez ça,
bah c'est sûr. Non, j'essaie encore, de m'interroger parce que vous savez, c'est l'auberge espagnole, un dessin.
Oui. Non, mais allez-y, je m'allonge sur le divan là.
Non, mais moi je ne suis pas psychanalyste. C'est encore une erreur. Non, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir, d'aller un peu plus loin, et je crois qu'on a tort. Alors que vous avez décidé de dire une chose et de l'inscrire sur le moment, de traiter l'événement.
Je vous dis, je travaille pour des hebdomadaires et des mensuels. Alors, c'est pas les mêmes dessins. Vous voyez, je crois que c'est simplement comme ça. C'est après qu'on peut faire une analyse, mais on est des journalistes, comme vous disiez tout à l'heure. Ouais. Alors, on travaille pour Charlie Hebdo, et on fait des dessins d'actualité parce que l'actualité nous porte. Et puis, pour les mensuels, on a le temps de raconter des histoires.
Enfin, quand même, il y a eu un glissement progressif vers la contestation. Vous n'étiez pas comme ça au début, et cela vient du fait que vous aimez le pamphlet, et si vous aviez été journaliste, vous auriez été pamphlétaire. Vous aimez le dessin, et vous êtes dessinateur. Et puis, en fait, le dessinateur est devenu polémiste, parce que c'était dans sa peau, dans sa propre aspiration.
Oui, oui. Mais, comme vous dites, c'est le dessin qui est important, quand même. Je pense qu'il y a... En France, il faut se dire qu'en ce moment, c'est l'école française de dessin, de bande dessinée qui est la plus importante. Et il y a des dessinateurs comme Giraud ou Gottlieb qui sont vraiment sont des phares dans le monde entier. Vous voyez, il y a 10 ans, c'était encore les États-Unis. Maintenant, c'est la France.
Et vous êtes très français de ce côté-là. Vous n'aimez pas du tout le dessin américain.
Si, mais... c'est sûr que je me sens plus dans la tradition des dessinateurs comme Gus Boffa, je ne sais pas si vous connaissez, ou des dessinateurs qui aimaient le noir, vous voyez, ou des dessinateurs de l'assiette au beurre, qui faisaient un dessin par page avec un beau noir, une belle composition.
Vous dessinez avec quel crayon?
J'essaie de dessiner avec tout, même avec un manche à balai. Parce que c'est un détail, ça, mais...
Une plume?
Oui, ou bien un morceau de bois, un bambou, on appelle.
Ouais. Il y a rarement des couleurs, hein?
Oui, je suis pas tellement coloriste. Non, je préfère le noir et blanc. C'est formidable.
Vous pourriez faire un tableau, exposer comme peintre?
Non.
C'est un autre métier?
Oui.
Alors, c'est plus compliqué, c'est plus raffiné?
Bon, je sais pas... Quand on voit... Non, mais quand je vois des dessins de Picasso, par exemple, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de voir ce qu'il fait en couleur. Je trouve que... Je préfère ses dessins, d'ailleurs. Il dit tout. Un dessin de Matisse, c'est magnifique. La couleur, bon... souvent, c'est de l'ornementation. Enfin, je le sens comme ça. Moi, je crois en noir et blanc. Enfin, je...
Alors, il y a ce que vous faites, c'est-à-dire vos reportages, et puis il y a la caricature. Dans ce que vous faites, vous pouvez tout vous permettre. On ne vous en voudra pas d'être passé à côté de ce qui pourrait être la vérité. Mais la caricature est un art exact. Il faut véritablement que ce que vous faites ressemble au personnage. Je vois par exemple Pompidou est remarquable. Et dans les procès, dans les croquis, vous deviez vraiment vous faire plaisir.
Oui.
Aujourd'hui, vous aimeriez dessiner qui?
Qui je voudrais avoir en face moi?
Parce que ce sont les hommes politiques, oui. Surtout à ce moment-là.
Non, je voudrais bien avoir une interview avec Giscard d'Estaing, lui parler du désarmement.
Vous voudriez le rencontrer?
Ah oui.
C'est une demande que vous faites, officielle.
Oui, voilà.
Quel but de rencontrer le président de la République?
Un quart d'heure pour lui parler du désarmement. Et lui aussi, il aime bien ce sujet-là, mais je crois que c'est pas du même désarmement. Enfin, c'est... Il faudra bien qu'un jour... parce qu'en ce moment, on est le troisième vendeur d'armes au monde. Alors, est-ce qu'on peut... Et puis, par ailleurs, on parle... les hommes politiques français parlent du rôle pacifique de la France dans le monde. C'est contradictoire, je crois.
Donc, vous seriez tout à fait capable d'aller à l'Élysée?
Ah oui? Ah, moi, je veux bien parler avec tout le monde.
Non, c'est bien, ça. Mais est-il vrai que vous ne vous rencontrez pas tellement souvent tous les amis de Charlie Hebdo?
C'est vrai.
De là vient vraiment le triomphe de l'association.
Non, mais je pense, vous savez, que les vrais amis sont ceux avec qui on travaille. Mmh. On se rencontre le lundi, on fait le bouclage du journal, on fait la couverture sur place, c'est le seul travail en commun. D'ailleurs, il faut dire que Bernier... a souvent des idées de couverture. C'est un type formidable parce que il sait à la fois parler aux banquiers pour les faire patienter et trouver des idées. C'est lui qui avait trouvé la fameuse idée de couverture, balle tragique à Colombey, un mort.
Ça, c'est une fameuse couverture. Vous n'avez pas un peu honte dans ces cas-là, non?
Non, attendez que je me rappelle. Non, je crois pas.
Alors, vous parlez des banquiers, mais vous avez de bonnes affaires. Vous faites de bonnes affaires, tous. Je le disais à Cavana l'autre jour.
Ah oui?
Qui lui a fait un beau bouquin.
Ah oui.
Ali Ruskov, quel beau.
Mais regardez dans son bouquin, justement, le passage où il revient du... Il est libéré et il s'aperçoit que les... au moment où on a dramatisé les événements, on a engagé dans l'armée allemande les vieux et les jeunes sur le front russe. Pendant ce temps-là, à l'arrière, tous les notables nazis étaient en train de se rendre aux forces américaines. Donc, vous voyez, on ne peut pas... on ne peut pas aller baïonnette au canon au-devant d'un adversaire, parce qu'il y a tellement d'exemples de manipulation comme ça. En 14-18, vous savez, on ne parle pas souvent de la poche de Briey en Meurthe-et-Moselle. C'était Schneider qui travaillait à la fois pour les canons allemands et les canons français. Et ça n'a jamais été bombardé, cette zone-là, parce qu'il fallait bien alimenter la guerre. Les deux côtés. Le bouquin de Cavana, vraiment, c'est un témoignage contre l'absurdité de la guerre.
Oui, Cavana a eu le prix interallié, il est tombé dans les honneurs.
Bah, vous savez,
mais il est heureux. Hein. Vous aimeriez, vous, un grand prix
Non, mais on risque rien, les dessinateurs, on n'est pas des personnages. Non, mais Cavana, vous savez, il n'a pas volé, si on prend ça comme un honneur, mais...
Non, il l'a bien mérité.
D'avoir son... Oui.
Mais j'ai l'impression au Québec que vous êtes quand même un grand solitaire.
C'est sûr.
C'est une nécessité pour ce travail-là.
Oui, on est seul devant sa table à dessin, mais... moi, je ne souffre pas de la solitude. Moi, je suis un solitaire, c'est sûr. On est tous des solitaires pour faire ce métier-là. Et alors, quand j'en ai marre, je me mets un petit disque.
Cabu, je m'aperçois que vous avez de la tendresse pour vos amis et que vous avez dans le même temps la courtoisie de l'irrespect. Et je crois que l'insolence, c'est quand même une jolie vertu.
Qui se perd, non?
Qui se perd. Je crois qu'on a peur d'être insolent. Et beaucoup sont perfides, oui. Ce qui est le contraire de l'insolence. Il ne faudrait pas quand même se tromper.
Mais si vous voulez, je reconnais que c'est dur d'être insolent quand on connaît les gens. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de crapules, vraiment.
Mmh. Donc, il ne faut pas sortir de sa tour d'ivoire.
Ah, voilà. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'un dessinateur...
Être cruel à tout prix.
Il faut voir ce que font les gens. Ce que font les gens et pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils vont toujours se justifier. Je reconnais que ce n'est pas facile. Quand on a quelqu'un en face...
Et puis vous, si jamais on vous voit trop, vous n'êtes plus crédible. Parce qu'en fait, vous êtes un père tranquille.
Bien sûr.
Mais c'est vrai aussi que vous faites beaucoup de télévision et que vous vous y amusez. Je vous ai vu avec les enfants.
Sur la deuxième chaîne, oui.
Non, Récréa 2.
Justement, avec mon copain Willy Lémergie, on a fait une émission où on a donné la parole aux enfants. On leur a demandé de téléphoner chaque semaine pour écrire une histoire. C'est ce qu'on a fait l'an dernier. Et je suis en train de faire un bouquin avec les dessins qui ont été faits l'an dernier. Et je me suis aperçu que les enfants de 10 à 14 ans reprenait toutes les idées écologistes, si vous voulez.
Oui.
C'est ça, et moi, j'étais drôlement content. Mais malheureusement, à 15 ans, ils deviennent punk, ils deviennent cyniques, et puis c'est foutu. Mais c'était vraiment intéressant l'an dernier, je vous assure. Parce qu'on a essayé d'élaborer une nouvelle constitution, par exemple, sur une planète idéale. Et le premier coup de téléphone qu'il y a eu, je me rappelle à cette émission-là, c'était un enfant de 12 ans qui téléphonait pour dire qu'il faudrait commencer par supprimer toutes les armes. Alors on a cru que c'était mon petit-neveu ou quoi que ce soit, mais non, c'était... Ils avaient tout compris. Mmh.
Et Cabu était fier, Cabu était heureux.
Moi, j'étais content, oui. Mais il semble qu'à 15 ans, il n'ait plus envie.
Mais tout peut être drôle dans la vie, même le pire, à votre avis.
Ah oui, il faut rigoler avec tout, même le cancer, tout. Oui.
Ah oui. Pour vraiment le tuer.
Oui. Oui, parce que sans ça, ça devient une...
C'est le rôle de l'humoriste.
Oui, je crois que...
C'est un peu Molière.
Si vous voulez, oui. Mais oui, mais lui, il disait avant de que dans pour en rire avant que d'en pleurer.
Oui.
Oui, c'est ça.
Donc vous avez, vous les dessinateurs, un rôle social. Cabu, oui, vous êtes nécessaire, vous devriez même être remboursé par la Sécurité sociale.
On n'a pas encore un statut. Marqué les objecteurs, ils ont eu bien du mal à avoir leur statut. Et la loi n'est toujours pas appliquée, mais enfin... Ça, c'est vrai. Regardez, il y a quand même quelques lois en France qui ne sont pas appliquées. C'est-à-dire qu'on a un mal fou à obtenir son statut, surtout en ce moment. Il y a 400 objecteurs qui n'arrivent pas à avoir leur statut parce que la commission juridictionnelle a décidé de ne plus accorder pendant un certain temps. On ne sait pas pourquoi. Les demandes sont les mêmes qu'il y a un an, mais on ne sait pas.
Enfin, moi, j'ai retenu deux choses. Un, vous souhaitez rencontrer le président de la République.
Oui.
Et deux, vous demandez votre statut d'objecteur de conscience. C'est bien ça?
Oui, oui. Oui.
Il n'y a pas autre chose à demander?
Un peu plus de Cap Calloway sur les ondes, un peu moins de disco, mais je crois que ça va être fini, hein, le disco, c'est une bonne nouvelle. Ça.
Ouais, c'est...
Et puis...
La mode est démodée.
Voilà, puis que les... et que les usines d'armement ferment. Et que nous, on est quand même... Oui, attention, pas un monde trop idéal, parce que nous, on n'aurait plus de matière pour rigoler. Alors, on serait obligé de changer de métier. Je crois que, bon, on risque rien.
Merci, Camus.